Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Daniela Franco pour la rédaction en brésilien.
Boa noite.
Vous nous ferez vivre les derniers jours de la campagne électorale américaine et ce que peut être le vote de la communauté brésilienne aux États-Unis. Denis Strelkov de la rédaction en russe.
Добрый вечер.
Le festival du théâtre anti-guerre russe vient d'avoir lieu à Lyon et vous en revenez. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est le sommet des BRICS, qui sont des pays importants, mais qui ne figurent pas parmi les superpuissances. À l'origine, BRICS, c'est l'acronyme de Brésil, Russie, Inde et Chine. D'autres pays les ont rejoints depuis. Cette 16e réunion avait lieu à Kazan, au bord du fleuve Volga, en Russie. Il a été question d'alternatives au dollar et d'un nouvel élargissement de l'organisation que Vladimir Poutine entend bien transformer en coalition anti-occidentale. Alors Denis, ce sommet était très important pour la Russie, qui veut montrer qu'elle a des alliés et non qu'elle est isolée malgré les sanctions décrétées par l'invasion de l'Ukraine.
Oui, c'est vrai que pour Moscou, c'est même un événement le plus important depuis le début de l'invasion en Ukraine. Le message est très simple pour Vladimir Poutine, c'est l'occasion de démontrer aux autres que l'autre monde, sans les puissances occidentales, est possible, voire inévitable. Quand Vladimir Poutine, lui, évite les déplacements à l'étranger pour ne pas effectivement se faire arrêter face au mandat d'arrêt imposé par la Cour pénale internationale, ce sont les alliés qui viennent le voir. Tel est le message du Kremlin. Il y a un an, je vous rappelle, ce sommet avait lieu en Afrique du Sud et Vladimir Poutine ne s'est pas déplacé pour exactement les mêmes raisons. Quant aux Russes, difficile de dire réellement quel est leur point de vue par rapport à cette organisation qui est tout d'abord économique mais désormais de plus en plus politique. Selon une étude sociologique, 83% des citoyens russes approuvent la participation de la Russie dans ce groupe. Uniquement 2% sont contre, mais attention, il s'agit d'une étude publiée par un organisme lié aux autorités. Cependant, pour les citoyens russes, l'un des avantages clairs du BRICS, c'est de pouvoir contourner les sanctions économiques imposées par l'Occident et diminuer leur impact économique sur la population.
Voilà pour l'économie. Sur le plan diplomatique, est-ce qu'on peut parler d'une victoire, hein?
Oui, absolument. Par exemple, la visite d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Même s'il a critiqué la guerre tout en étant sur le territoire russe, il a en quelque sorte montré que la Russie reste un partenaire légitime avec qui l'Organisation des Nations Unies doit parler. À Kiev, on a lourdement condamné cette visite d'Antonio Guterres à Moscou. Vladimir Zelensky a refusé de le rencontrer après sa visite en Russie.
Alors, le président Poutine a essayé d'utiliser donc ce sommet des BRICS pour formaliser, pour renforcer cette coalition anti-occidentale. Plusieurs pays du bloc ont refusé de participer toutefois à cette polarisation, comme la Chine, l'Inde et le Brésil. Le président brésilien Lula a dû annuler son déplacement à Kazan en raison d'un accident domestique, mais il a participé à distance à l'événement. Daniela, tout d'abord, comment va le président brésilien?
Il va mieux, Philippe. Lula est tombé samedi dernier chez lui. Il a une blessure grave à la tête et son équipe médicale lui a suggéré de ne pas voyager. Mais Lula continue à travailler depuis Brasilia et il a donc participé en visioconférence au sommet des BRICS. Son discours a eu un fort impact pour contrarier les aspirations anti-occidentales de Poutine. Je vous propose d'écouter un extrait du discours de Lula em visioconferência ao sommet des BRICS.
Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por mundo multipolar.
Qu'a dit le président Lula?
Lula promet que quand le Brésil va assumer la présidence de BRICS en 2025, le bloc va renforcer la lutte pour un monde multipolaire et pour des relations moins asymétriques entre les pays. Le président brésilien a mis en avance l'importance des BRICS pour la croissance économique planétaire. Et certes, Lula a dénoncé la domination de l'économie mondiale par les pays riches, mais le président brésilien veut rompre avec cette logique. Selon lui, le monde ne doit plus être divisé entre amis et ennemis.
Alors Lula a également lancé des appels anti-guerre. Hein.
Il a commencé en invoquant la guerre à Gaza, qu'il qualifie d'absurde, en rappelant que ce conflit se répand à la Cisjordanie et au Liban. Et ensuite, Lula a parlé de la guerre en Ukraine. On va l'écouter.
Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia.
Aidez-nous à comprendre.
Oui, Lula demande des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Il rappelle que c'est les guerres à Gaza et en Ukraine ont le potentiel de devenir mondiales. Et selon lui, cela montre que les BRICS doivent travailler ensemble pour des objectifs en commun.
Ouais, travailler ensemble, ce discours d'union et d'amitié a ses limites hein, en Amérique latine. Le Venezuela traite le Brésil d'hostile et d'agresseur. Pour quelles raisons ?
Bon, Philippe, le Venezuela ambitionne d'intégrer les BRICS, mais le pays a été exclu de la liste des potentiels nouveaux membres du bloc. Et selon Caracas, en raison d'un veto du Brésil, le gouvernement brésilien a décidé de ne pas répondre à ces accusations pour le moment. Donc, officiellement, nous n'avons pas de confirmation que le Brésil a empêché son voisin à intégrer les BRICS, mais depuis la réélection controversée de Nicolás Maduro, Lula a essayé d'être un médiateur dans la crise politique au Venezuela et il a même proposé la réalisation de nouvelles élections, ce qui bien sûr a été refusé par Maduro. Donc les tensions montent de plus en plus entre le Brésil et le Venezuela.
Denis Relkov, je suppose que la presse russe a largement commenté ce sommet qui se passait donc sur les bords de la Volga en Russie. Hein.
Oui, bien évidemment, Philippe. C'est l'événement de l'année. La presse est très encouragée même d'en parler. Le site d'information indépendant Medusa, qui est basé en Lettonie, a eu accès à des informations très intéressantes concernant les médias d'État russe qui sont censés en parler selon les ordres venus directement du Kremlin. En effet, c'est très simple. Il y a trois axes majeurs dans la couverture de cet événement. Vladimir Poutine est un leader informel de la majorité des pays du monde, du sud global, comme on dénomme ces pays en Russie. Puis, les élites des pays de l'Occident sont en panique face à ce sommet, tellement il est important. Et ensuite, l'Occident est très inquiète face à la position russe dans le monde. Tout cela pour démontrer une chose, la tentative d'isoler la Russie n'a pas fonctionné. Comme vous le voyez, c'est assez redondant. On répète toujours les mêmes choses. C'est un peu comme « Make Russia Great Again », faire rétablir la grandeur de la Russie. On évite de parler des complexités des unions entre la Russie et ces pays-là, qui est affaiblie par la guerre et les alliances qu'elle doit chercher pour assurer son effort militaire.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sommet des BRICS qui avait lieu à Kazan.
20 часов в Париже,
20
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite de la campagne électorale pour la présidentielle. La candidate démocrate Kamala Harris, le candidat républicain Donald Trump multiplient donc les meetings et les apparitions dans les médias. Aujourd'hui, ils sont tous les deux au Texas, où il n'y a là-bas aucun doute sur la victoire de Trump. Daniela Franco, de la rédaction brésilienne, les derniers sondages montrent un léger avantage du républicain par rapport à sa rivale.
Exactement, Philippe. Les deux grands sondages ont été publiés cette semaine pour le journal Wall Street Journal et qui montrent Trump avec 47% des intentions de voix et Harris avec 45%. Mais il y a d'autres sondages qui montrent la même quantité d'intentions de voix pour chacun, 48% selon un sondage de New York Times publié aujourd'hui. On le sait, maintenant, tout dépend des États pivots, ces États qui n'ont pas une préférence politique définie, l'Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin. Le mystère va durer jusqu'au 5 novembre, comme nous explique Philippe Campanche, professeur à l'Université Johns Hopkins à Baltimore.
Aqui nos Estados Unidos, por causa de tal de colégio eleitoral, a gente está sempre falando de alguns milhares de votos aí.
Quelle est l'analyse de cet expert?
Philippe Campanche explique que dans ce système complexe du collège électoral des États-Unis, quelques milliers de voix dans les États pivots décident les élections. Il plaisante, il dit « Tout dépend de s'il va pleuvoir en Pennsylvanie le jour de l'élection, si les électeurs vont effectivement voter ». Selon lui, ce système électoral rend difficile les prévisions, donc il pense que ces efforts de prévision des résultats est inutile parce que, selon lui, à la fin, ce ne sont que quelques voix qui vont faire la différence et qui vont décider qui sera le prochain président au président des États-Unis.
Alors, pour les arguments, les discours se raidissent, il y a des propos violents. Entre les immigrants, la peur que les promesses de Trump deviennent une réalité, c'est pour ça que pour les Brésiliens qui vivent aux États-Unis, naturalisés américains, le vote Kamala Harris est évident.
Ce qui montre un sondage de l'Institut brésilien IDEI en français, publié cette semaine, et qui montre que 60% des électeurs brésiliens et brésiliennes basés aux États-Unis vont voter pour Kamala Harris. 35% disent qu'ils vont voter pour Trump. Il y a 2% qui vont voter dans d'autres candidats et 2% qui n'ont pas encore décidé. J'ai parlé cette semaine avec la présidente de l'Institut IDEA, Sheila Schumann, qui a expliqué ce choix.
A nossa hipótese para um pouco de resistência com relação ao Trump e mais adesão para a Câmara é exatamente
justamente essa posição do Donald Trump. Especialista em sondagem, ele diz
quoi? Ele diz que as intenções de voto da comunidade brasileira baseada nos Estados Unidos é expliquée par le positionnement de Trump em relação à l'immigration. Bien sûr, les Brésiliens qui votent aux États-Unis sont naturalisés américains, donc ils ne sont pas la cible directe du candidat républicain. Par contre, ce discours radical de Trump sensibilise cet électorat d'origine étrangère. Sheila Schumann dit clairement que le choix majoritaire pour Kamala Harris est le signe de la peur de Trump dans la communauté brésilienne, Philippe.
Est-ce qu'on peut dire pour autant que les Brésiliens qui vivent donc aux États-Unis, naturalisés américains, je le rappelle, sont progressistes?
Et justement, non, Philippe. Je dirais que c'est tout le contraire, parce que quand on analyse les votes des Brésiliens expatriés dans les élections brésiliennes aux États-Unis, c'est toujours la droite qui gagne. Bolsonaro, par exemple, a obtenu la majorité des voix parmi les électeurs brésiliens aux États-Unis en 2018, quand il a été élu président, mais aussi en 2022, quand Lula a gagné les élections brésiliennes. Donc, la communauté brésilienne aux États-Unis a cette tendance plus conservatrice comme le reste de la communauté latine là-bas.
Venons-en à ces Brésiliens qui habitent donc aux États-Unis. Vous pouvez nous donner plus de précisions, de détails sur cette communauté?
Donc, il y a environ 2 millions de Brésiliens et Brésiliennes qui habitent aux États-Unis, selon les données du gouvernement du Brésil. C'est un numéro qui ne cesse pas d'augmenter, 20% de plus en 10 ans. Entre 2013 et 2022, 103 000 Brésiliens ont obtenu la nationalité américaine, selon les gouvernements américains.
Quel est le profil de ces Brésiliens?
Le profil des Brésiliens qui vont habiter aux États-Unis a beaucoup changé ces dernières décennies. Pendant les années 80 et 90, c'était principalement des Brésiliens du sexe masculin qui voyageaient avec des visas de tourisme et qui restaient illégalement pour travailler pendant une période. Et avec les changements de politique d'immigration, les allers-retours étaient de plus en plus compliqués. Et ces Brésiliens ont donc commencé à former des familles aux États-Unis et à rester. Et aujourd'hui, avec ces immigrés qui vont aux États-Unis en cherchant du travail, une vie meilleure, il y a aussi des personnes qui vont déjà avec un visa de travail, des hommes d'affaires, des étudiants, des Brésiliens, Brésiliennes qui vont aux États-Unis pour étudier et qui font une carrière académique là-bas et qui restent. Philippe.
Daniela Franco de la rédaction brésilienne de RFI, rédaction qui, comme toutes les autres rédactions de Radio France Internationale, suivra au plus près ce scrutin présidentiel américain. C'est à Lyon que pendant 2 semaines se tient un festival du théâtre Contresens. Contresens réservé aux artistes très engagés sur le plan social ou politique. Il s'agit d'un théâtre plutôt expérimental mais qui accueille également des artistes renommés. Denise Trelkoff, vous y êtes rendu lors d'une journée entièrement consacrée aux artistes exilés russe.
Oui, il s'agit d'une première pour le festival. Ses organisateurs avouent que même si les artistes d'origine russe étaient présents pendant les éditions précédentes, ça n'a jamais donné lieu à une journée complète où plusieurs artistes ont été appelés sur scène. Tous ont été là pour transmettre un seul et unique message, exprimer leur colère contre la guerre en Ukraine. La particularité de ce festival qui se termine demain, c'est qu'il y a la présence des artistes qui ont souvent fui leur pays ou des professionnels du théâtre qui soutiennent la cause des exilés. Leur slogan, un théâtre d'urgence pour parler des sujets qui fâchent, voir ce qu'on refuse parfois de voir et d'un autre point de vue. Quant à la guerre en Ukraine, sur scène, il y avait 4 spectacles et performances pour mieux comprendre comment les artistes comprennent à la fois l'origine de l'exil et la nature de cette guerre. Pour cela, tous les moyens sont bons. Les photos de villes détruites, les chansons populaires russes dont le sujet est la guerre et la souffrance, les témoignages de soldats russes interprétés par les comédiens.
Et Denis, il y avait aussi un théâtre présent qui vous a marqué plus que d'autres.
Oui, Philippe, c'est un théâtre que je suis même avant le début de la guerre en Ukraine, le CNAM. Ces artistes viennent de Komsomolsk-sur-Amour. C'est une ville très à l'est de la Russie, dans la région de Khabarovsk. Sur la carte, elle est beaucoup plus proche au Japon et à la Chine qu'à Moscou. Il s'agit du plus ancien théâtre indépendant russe après l'époque de l'URSS, qui s'est exprimé sur tous les sujets de société et qui a été contraint de fuir la Russie après le début de l'invasion face à son opposition au pouvoir. Les comédiens de ce théâtre n'ont rien à voir au nouveau théâtre russe que j'ai connu à Moscou. Ils parlaient des sujets locaux, du passé soviétique très lourd, du froid de cette Russie profonde, inconnue ou presque à Moscou, et très appréciée ici en France, car son troupe a multiplié les tournées en Europe avant de s'exiler suite à la guerre.
Alors, qu'est-ce que cette troupe du CNAN a montré sur scène à Lyon ?
Il s'agit d'un atelier, d'un spectacle Work in Progress, le travail en cours, où plusieurs artistes ont évoqué ce que cela signifie pour eux, fuir leur pays, comment ils expliquent eux-mêmes la guerre, la haine, le passé. C'était très immersif, les spectateurs ont même été invités d'y participer sur scène. Voici comment Tatiana Frolova, la chef du CNAN, explique elle-même leur performance.
Quand a commencé la guerre, что мы кричали не даром последний наш спектакль счастье.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Elle dit que pour elle, l'artiste, c'est un système d'alarme pour la société, pour éviter les pires transformations de cette communauté. Et cela, peu importe le pays, la Russie ou même la France. Pendant des années, son théâtre a sonné un cri d'alarme, mais on ne les a pas ni entendus ni écoutés. À qui est la faute ? Aux artistes qui ont souvent été payés par l'État pour leur art ou à la société ? Difficile de trouver la réponse.
L'autre spectacle dont il faut parler, Denis Strelkov, c'est le Finis. Le Clair-Faucon, quelle est l'histoire ?
Il est basé sur une histoire réelle d'une femme qui est partie en Syrie pour épouser un islamiste radical par amour et qui a été ensuite condamnée à une peine de la prison ferme pour terrorisme en Russie quand elle est revenue. Cette pièce de Svetlana Petrychuk a été pour la première fois mise en scène par Evgeny Berkovitch et a été un véritable succès, pour le théâtre. Sauf qu'après, Petrychuk et Berkovitch ont été également condamné à 6 ans de prison en Russie pour l'apogée du terrorisme, malgré que le sens de cette pièce est plutôt l'inverse, de condamner le terrorisme.
Et à Lyon, c'est Victoria Privalova qui l'a mise en scène.
Oui, même si, bien évidemment, il s'agit d'un hommage à ceux qui ont été condamnés pour leur art, l'interprétation de Privalova est très particulière, avec des touches artistiques particulières, et même l'usage de nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle. Voici que Victoria Privalova m'a raconté.
Они пережили преследование и заключение только потому, что они были влюблены. Про это вообще текст, что женщина может там потеряться в этих вот...
Elle dit que le texte écrit par Petrychuk avant 2020 a une autre signification 5 ans après. Pour elle, c'est une histoire d'une femme condamnée par son amour, une histoire très féministe et qui effectivement montre la Russie d'un point de vue très différent que celle voulue par les autorités russes. Mais en même temps, il s'agit d'une pièce qui n'est pas enfermée sur la Russie, car l'islamisme radical est un sujet global. C'est un théâtre russe indépendant qui s'intègre dans une culture européenne et qui est très audible, y compris pour les Français.
Encore une question, comment peut-on organiser une journée consacrée en soi à la guerre en Ukraine sans inviter les artistes ukrainiens, eux aussi en exil ?
Comme nous a raconté le directeur de ce festival, Patrick Penaud, il y avait effectivement des Ukrainiens qui ont refusé d'être à côté des Russes pour certains spectacles, mais pour lui, les Russes qui s'engagent contre la guerre sont aussi des victimes de ce conflit. Ce n'est pas le rôle de ce festival de les exclure du dialogue culturel, c'est une journée de la Russie qui pense comme nous, souligne-t-il.
Denis Strelkov de la rédaction russe de Radio France Internationale. C'était Action du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet et sur l'appli RFI.